Europe 1. h 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis Mathieu Noël. À mes côtés, il est le Superman du patrimoine, mais contrairement à Clark Kent, il porte son slip sous son pantalon. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, ravi de vous retrouver pour Historiquement Vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter.
Et nous sommes à l'orée de deux heures passionnantes, où comme chaque après-midi, nous allons rencontrer trois personnages de l'histoire qu'a priori tout oppose et qui pourtant partageaient une passion. Aujourd'hui, si je vous dis Louis XIV, Auguste Rodin et John Travolta, la première question qui vient à l'esprit forcément, c'est...
Qui était le plus mauvais coup?
Non Stéphane, ça c'est la 174e question qui vient d'être dans la première. Normalement, c'est quel est ce point commun?
Ah bah oui, c'était des stars.
Pas mal, aller plus loin dans le raisonnement, que font les stars?
Elles dansent.
Bravo Stéphane. C'est la passion surprenante qui relie Louis XIV, Rodin et Travolta, notre thème du jour donc. Danse avec les stars, danse avec l'histoire.
Et vous l'avez compris, chaque après-midi, dans Historiquement Vôtre, on revisite l'histoire, mais vraiment toute l'histoire. Et comme d'habitude, ils sont trois à fouler le plancher d'Historiquement Vôtre en rythme et en cadence. Sur une rumba, Clémentine Portier-Kaltenbach nous fait tourner la tête et nous embarque dans l'intimité de l'histoire. Et de qui en particulier aujourd'hui?
Ah bien, aujourd'hui, je vous fais indéniablement tourner la tête car nous allons parler baiser.
J'ai bien entendu.
Il est d'usage d'aborder les dames en les embrassant sur la bouche. Vous ne devinerez jamais qui a écrit ça et à quelle époque.
Bah avant le Covid, hein.
Eh ben c'était Montaigne, figurez-vous. Donc au XVIe siècle, le baiser n'a pas encore le caractère intime et sensuel qu'on lui connaît aujourd'hui. Et il est alors d'usage général d'embrasser. Et oui, on embrasse indifféremment hommes et femmes sur la bouche. Et
d'ailleurs, belle époque.
On déjà, est trop tard, Mathieu.
Au Moyen-Âge, les chevaliers s'embrassaient entre hommes. Hein, vous vous seriez, embrassé pour vous dire bonjour. Enfin, est-ce que vous auriez été chevalier ou va-nu-pied? Ça, c'est encore une autre histoire. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais vous raconter quelques anecdotes autour de l'histoire du baiser.
Sur un foxtrot à petits pas, il remonte aux origines, souvent étonnantes, d'un objet de notre quotidien, d'une invention ou d'une obsession, les siennes. Bonjour David Castello-Lopes.
Bonjour.
Essayez pas de prononcer, on comprend plus rien.
Bonjour Stéphane
Castello-Lopes, il s'appelle.
Oui, depuis qu'il nous a demandé.
Il n'y arrive pas. Quand buccalement, on n'est pas capable de le faire.
Buccalement, on n'a pas
aller,
les ressources.
Ah, moi, je vous fais l'accent portugais tout le temps.
Je fais très bien.
Voilà. Ça devient les auditeurs d'origine portugaise.
Oui, de quoi je vais vous parler aujourd'hui?
Oui, c'est ça.
Ben oui, aujourd'hui, je vais parler des origines d'un jouet. Le jouet que j'appelle le jouet de toutes les promesses et de toutes les déceptions, qui est le télécran, qu'on appelle aussi l'ardoise magique.
Très bien. Mais, sur une valse viennoise, avec beaucoup de chantilly, il nous raconte plat l'histoire d'une recette. Bonjour Olivier Pouls. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui?
Eh bien, des restes. Mais des restes sacrément bien cuisinés. Le hachis parmentier. Comment magnifier vos restes de viande avec cette recette dont je vous raconterai l'histoire et l'origine. Et puis je vous donnerai peut-être même une petite recette originale, tiens, pour en faire un dès ce soir chez vous.
Et n'oublions pas non plus notre quiz Burn to be Alive, exceptionnellement en plus à la fin de cette émission pour faire honneur à notre thème Danse avec l'histoire. Toute l'équipe vous interprétera le grand final du Lac des Cygnes. Rien que pour voir Stéphane avec des pointes et poules sans tutu, ça vaut la peine de rester jusqu'au bout. Visuellement, ça promet.
Dommage que ce soit de la radio. Hein.
Mais démarrons doucement. À la danse classique, il préfère le rancho portugais, vous l'avez compris. Voici venir David... Redites-le.
Castello.
Ben voilà, c'est simple.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'émission qui se plie en quatre pour vous faire aimer l'histoire.
Heureusement que vous êtes souple, Stéphane. Et on commence comme chaque après-midi avec la chronique de ce garçon borderline psychologiquement qui a tenté de m'épiler en direct. Alors, fou ou pas fou, difficile à dire. Avec David Castello-Lopes, on revit Shutter Island au quotidien. Mais ça reste un journaliste d'investigation hors pair, surtout quand il s'agit de retrouver l'origine d'un objet ou d'une tradition, mon cher David.
Oui, j'essaye en tout cas. Donc aujourd'hui, hein, c'est les origines de l'ardoise magique, qu'on appelle aussi le télécran ou écran magique. D'abord, est-ce que vous voyez bien ce que c'est?
Ben oui, parce que j'en ai eu sous le sapin quand j'étais petit.
Cadre rouge en plastique, avec une sorte d'écran gris au milieu. De chaque côté de ce cadre rouge, il y a deux molettes blanches qu'on peut tourner. Il y en a une qui permet de dessiner les lignes verticales sur l'écran et l'autre qui permet de dessiner des lignes horizontales.
Et si on fait en même temps?
Et quand vous tournez les deux molettes à la fois à la même vitesse,
eh
bien ça fait des diagonales. Et point important, l'une des caractéristiques des dessins que vous faites, c'est qu'ils sont éphémères. Quand vous terminez votre dessin, vous secouez le télécran et le dessin disparaît. Alors je vous dis tout de suite, moi le télécran, ça m'a toujours énervé. Déjà parce que ce truc de l'éphémère, moi ça m'emmerde. Tous ces gens qui vous disent, non mais justement, c'est parce que ça dure pas que c'est beau. Non mais ta gueule en fait, j'ai fait un beau dessin, je veux le garder, c'est tout. Voilà. Et deuxièmement, l'ardoise magique, c'est un jouet qui nécessite un savoir-faire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre une ardoise magique et faire tout de suite quelque chose de bien. Donc ce que vous faites, c'est des espèces de gribouillis abstraits et frustrants. Alors, je veux dire, sur la boîte du télécran, il y a la Joconde. Et vous, vous êtes enfant et vous essayez de faire la Joconde.
Qui a fait la Joconde avec le télécran ?
Vous êtes enfant, vous essayez de faire la Joconde et ça ne fait pas du tout la Joconde. Ça fait un gros pâté dégueu, hyper énervant. Mais alors d'où il vient ce jouet, hein, ce jouet de toutes les promesses et de toutes les déceptions ? Eh bien pour le savoir, j'ai dû me rendre en banlieue, hein, cet endroit Mathieu que vous traversez une fois par an sur la route de Saint-Tropez.
Je vous en prie, je traverse tout le temps.
En banlieue donc, et plus particulièrement dans la ville, dans une ville qui s'appelle Vitry-sur-Seine. Je me suis un petit peu intéressé à Vitry-sur-Seine. Il y a 100 ans, c'était vraiment joli, hein, c'était charmant Vitry-sur-Seine. Il y avait des petites rues sympas, il y avait une plage au bord de la Seine, on pouvait se baigner dans la Seine. Mais le truc c'est que dans les années 60, il a fallu loger tous les enfants du baby boom, hein, merci Stéphane. Et du coup, le gouvernement a déclaré...
C'est pas de ma faute.
Stéphane serait responsable des enfants du baby boom, mais vous lui donnez quel âge à Stéphane exactement ?
Non, il est un enfant du baby boom.
Ah oui, d'accord. J'ai cru que vous l'accusiez d'avoir beaucoup procréé. D'accord, non, très bien.
Et du coup, pour loger tous ces gens-là, le gouvernement a déclaré que Vitry était à présent une ZUP. Vous savez ce que c'est qu'une ZUP ?
Oui. Mais il sait ce que c'est, il n'a jamais vu. Mais
une zone à urbaniser en priorité. Ça a l'air sympa comme ça, hein, ce côté prioritaire, non. Mais dans les faits, ça consiste quand même à tout péter et à mettre des immeubles dégueux à la place. C'est ce qui s'est passé à Vitry, et du coup, c'est moche. C'est moche, mais il y a toujours une dame qui vit là-bas. Cette dame, elle s'appelle Sophie Cassagne, c'est la fille de l'inventeur du télécran. Et je sens que vous avez envie de l'entendre dire qu'elle s'appelle Sophie Cassagne et que c'est la fille de l'inventeur du télécran.
Ah, oui.
Je m'appelle Sophie Cassagne. Et je suis la fille de l'inventeur du télécran.
Vous ne nous avez pas menti.
Je ne vous ai pas menti. Ça donne un air d'authenticité à cette chronique, avouez-le. Donc Sophie Cassagne, elle m'a raconté l'histoire de son père, donc il s'appelait André. André, il a d'abord été boulanger, sauf qu'il était asthmatique, ce qui n'est pas très recommandé quand on est boulanger. Alors il a fait un petit changement de carrière, il est devenu électricien. Et André, il aimait bien bricoler, alors il expérimentait des choses dans son atelier, et en particulier des choses avec de la poudre d'aluminium que l'entreprise pour laquelle il travaillait possédait en grande quantité. Et il a remarqué deux choses. Un, la poudre d'aluminium, ça colle au verre, hein, et deux, quand on gratte dessus, ça fait des dessins. Avec ce principe-là, il a fait un prototype de télécran qui a gagné le concours d'invention Lépine à Paris. Et ensuite, il a vendu son invention aux Américains, hein, comme souvent.
Ah, bien joué, André.
Qui l'ont, soyons honnêtes, énormément amélioré, hein, qui en ont fait le succès mondial qu'on connaît. Notamment parce que ça a été un des premiers jouets dont on a fait la pub à la télé.
On dessine et on efface. Télécran, un jeu pour dessiner, pas comme les autres.
Mais pas comme les autres, un peu moins bien.
Mais non, à l'époque, c'était génial.
Non, c'était génial. Et puis surtout, pour redessiner après, c'est super. André Cassagne, il a quand même reçu 25 000 $ pour céder ses droits. C'est quand même l'équivalent de 200 000 € aujourd'hui. Ce qui, pour une invention qui n'était pas encore totalement au point, c'est quand même pas si mal. D'autant plus que ça lui a permis de faire construire sa maison à Vitry-sur-Seine, qui est plutôt jolie, hein, que j'ai visitée. Il reste quand même que le télécran, c'est un jouet qui énerve les gens. Sur Internet, on trouve vraiment plein de vidéos de gens qui torturent des télécrans, hein, qu'ils les ouvrent, qu'ils les cassent pour voir ce qu'il y a dedans. Je l'ai fait moi-même.
Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Il y a de la poudre d'aluminium qui colle aux doigts et il y a des petites billes.
Comment ? C'est pas toxique, la poudre d'aluminium ?
Il vaut mieux pas la sniffer. Hein. Alors j'ai quand même demandé à Sophie Cassagne si elle jouait au télécran quand elle était petite. Elle m'a dit non. Et je lui ai dit mais pourquoi ? C'est parce que c'était trop dur. Hein. Voilà, c'est exactement le même principe que moi.
Ben, bravo David, hein, une fois de plus. Ouais. Très belle chronique, très informée.
Et d'ailleurs, on peut réécouter les chroniques et les origines de David Castello-Lopez en podcast et sur toutes les applis et sur le site europe1.fr.
C'est ça qui est magique avec le site d'Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre. L'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. 2 heures pour découvrir 3 personnages historiques qui n'auraient jamais dû se croiser.
Et pourtant, si Louis XIV avait croisé Rodin et John Travolta, ils se seraient probablement déhanchés tous les trois sur... Stéphane enfile ses talonnettes pour nous parler de notre premier fou de danse du jour, le roi soleil en personne.
Historiquement vôtre. Le récit.
Sur la cime des monts commençant d'éclairer, je commence déjà de me faire admirer.
Mais Stéphane parlait de Louis XIV, pas de vous, on avait dit.
Non, c'est bien du roi soleil dont il s'agit. Nous sommes en février 1653 sur la scène du Petit Bourbon à Paris. dans le ballet royal de la nuit d'Isaac de Benserrad, Louis XIV, qui a tout juste 14 ans, est vêtu d'un costume scintillant d'or et de pierreries. Il joue le rôle du soleil levant. Précoce communicant, Louis XIV pense même à faire immortaliser cette représentation de lui en soleil, ce que n'avait pas pensé à faire son père Louis XIII, pour affirmer la grandeur des rois de France. Quoi de mieux que la danse ? Louis XIV en est grand amateur, heureusement pour lui, car on le plonge dans la marmite tout petit, dès l'âge de 7 ans. Associé à l'escrime et à l'équitation, la danse tient une place essentielle dans l'éducation nobiliaire. Le jeune Louis la pratique auprès des plus grands maîtres. Il s'entraîne 2 heures par jour, le matin. Appliqué, le roi se montre très adroit dans tous les pas qu'il doit exécuter. Pas grave, coupé, pas de gavotte, chassé, sissonne. Créatif, Louis XIV ajoute même sa patte à ses mouvements et réinvente l'entrechat. La danse dans laquelle il excelle, c'est le raffiné menuet. En 3 temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Vous faites une petite démo, Stéphane, je vous sens parti là.
Dans ce ballet de la nuit, Louis danse aux côtés de Jean-Baptiste Lully, avec qui il se lie très vite d'amitié. Lully, qui deviendra par la suite le compositeur attitré du roi, apprend la musique avec le chef des violons de Mademoiselle de Montpensier. Musique et danse font bon ménage dans tous les ballets que donne la cour depuis le XVIe siècle. C'est Catherine de Médicis qui importe le ballet italien à la cour de France en 1581. Véritable spectacle, il allie poésie, art visuel, musique et danse. Chacun a son rôle à jouer, attribué par le roi en personne. Branle, sarabande, courante, pavane.
La branle.
Oui, ces danses que l'on retrouve dans toutes les cours européennes doivent être maîtrisées par tous, les femmes et les hommes de haut rang qui sont conviés au bal. C'est le protocole, Mathieu.
Et si on ne sait pas danser, on ne peut pas intégrer.
On ne peut pas être reçu à la cour. Égare à celui qui se trompe de pas. Cela peut créer un scandale. Scandale aussi si vous êtes une dame et montrez vos chevilles alors que les nobles pratiquent la danse basse. Et évite généralement les sauts, sauf dans certaines danses comme la volte.
Et comme la branle.
S'il est un divertissement qui illumine de nombreuses soirées à la cour, le ballet est surtout un art majeur et un outil politique. Miroir de la société aristocratique, il exalte la grandeur de la monarchie. En 1661, à 23 ans, à la mort du cardinal Mazarin, Louis XIV commence véritablement son règne. Il prend les rênes du pouvoir et fonde, cette même année, l'Académie royale de danse. Ne supportant plus l'hégémonie culturelle de l'Italie, il accentue la politisation de la danse et sa professionnalisation. En même temps, le ballet des saisons, inspiré des métamorphoses d'Ovide, se joue en plein air à Fontainebleau durant l'été. 900 habits ont été créés pour l'occasion, des costumes taillés dans des tissus rebrodés d'or, de rubans et de pierres précieuses. Louis XIV joue le rôle de Cérès, déesse de l'agriculture, une femme, oui,
ah oui.
Et du printemps. Sa cousine Henriette d'Angleterre joue Diane. Elle est entourée de ses nymphes, parmi lesquelles Mademoiselle Mancini et Louise de Lavallière, dont le roi tombe sous le charme lors de la première représentation. En juin 1669, l'Académie royale de musique, ancêtre de l'Opéra national de Paris, voit le jour. 2 ans plus tard, Pierre Beauchamp, maître à danser du roi, devient maître des ballets de cette Académie royale de musique, devenant le plus grand chorégraphe de son temps. Il élabore la codification de la technique de danse classique et définit les 5 positions des pieds. Beauchamp collabore avec Molière et Lully et le trio donne naissance à la première comédie-ballet, Les Fâcheux, composée en 1661 pour la fête qui causera la chute de Fouquet au château de Vaux-le-Vicomte. Puis à d'autres chefs-d'œuvre comme Le bourgeois gentilhomme et Le malade imaginaire. Notons que sur les 33 œuvres de Molière, 13 sont des comédies-ballets. On a tendance à l'oublier car la parole a pris le pas dans son œuvre, mais à l'origine, dans les pièces de Molière, on dansait.
Et Louis XIV, il danse encore à ce moment-là ou il regarde les comédies-ballets depuis son fauteuil royal ?
Restez bien installé dans votre fauteuil à vous, mon cher Mathieu. Vous saurez tout cela dans un instant.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Stéphane, vous nous avez laissé au moment où le roi dansait. Eh bien, continuez maintenant.
Oui, je continue, mais Louis XIV, lui, va s'arrêter. Ah. Bien entendu, on danse toujours à la cour du roi. Des ballets d'un côté, des bals souvent de l'autre. Et certains entrent carrément dans l'histoire, comme le grand divertissement royal donné le 18 juillet 1668, célèbre fête de Louis XIV à Versailles venant célébrer la gloire du roi après la paix d'Aix-la-Chapelle et le rattachement de plusieurs places flamandes à la France. On y mange, on y festoie et on y danse. Cette fête extravagante subjugue par sa mise en scène, ses décors et son bal. Elle marque aussi l'intérêt grandissant du roi pour Versailles qui passera de lieu de fête et de réjouissance à celui de lieu de gouvernement. 2 ans plus tard, Louis XIV monte une dernière fois sur scène dans la comédie-ballet Les Amants Magnifiques, la dernière collaboration de Molière et Lully. Alors qu'il a travaillé sans relâche les rôles de Neptune et de Soleil Apollon, Louis XIV ne danse qu'à la première représentation. À 32 ans, le roi met fin à une carrière de danseuse...
Et ça y est, premier dérapage historique de Stéphane Bern.
À 32 ans, le roi met fin à une carrière de danseur de près de 20 ans, commencée pour la première fois en public à l'âge de 12 ans, dans le ballet de Cassan.
Mais Stéphane, c'est parce que c'est des raisons physiquement personnelles qui fait qu'il arrête, parce que 32 ans, c'est jeune. À l'époque, c'est vieux, 32 ans.
Écoutez plutôt, si le roi Soleil tire sa révérence 45 ans avant sa mort, c'est sûrement parce qu'il se sent moins à l'aise de danser. Oui. Il a peur d'avoir moins de dextérité, il a peur de tomber aussi.
Il n'est pas vieux quand même.
Et c'est normal, car si le roi tombe, c'est toute la France, c'est le royaume qui tombe. D'autres avancent une autre hypothèse. En quittant la scène, Louis XIV aurait souhaité se distancier du peuple. Tout un chacun ne doit pas avoir la possibilité de le voir. Rencontrer le roi doit rester un privilège. Le roi continue... Jusqu'à la fin de son règne, a encouragé la création artistique française et son fidèle Lully y est pleinement engagé. Si le roi ne danse plus, Lully compose toujours et en 1672, il devient directeur de l'Académie royale de musique. C'est alors que le compositeur s'affranchit de son Italie natale en imposant l'opéra à la française avec danse, qui s'éloigne de l'opéra italien sans danse. Mazarin avait échoué dans sa tentative de faire entrer l'opéra italien en France, car les Français voulaient du ballet. Lully leur en a donné. Jusqu'à sa mort, en 1687, à la suite, vous savez, c'est terrible la mort de Lully, d'une blessure au pied, parce qu'il a frappé de son bâton le pied, il s'est blessé, la blessure s'est envenimée, et en pleine répétition d'un tédéum préparé en hommage de Louis XIV, qui lui se remettait tout juste d'une maladie, Lully... Il a vu sa jambe se gangréner et il en est mort. En disant à l'époque que le roi souffrait d'une tumeur à la cuisse. Mais bien vite, la pudeur a laissé place à la réalité. C'était une fistule anale, c'est-à-dire un abcès situé près de l'anus. Heureusement pour lui, à cette époque-là, Louis XIV avait depuis longtemps arrêté de danser. Et de cette fistule anale est né un bel hymne.
Ah bon ?
Le God Save the Queen.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Il repousse toutes les limites de la vulgarisation historique.
Non, vous n'étiez pas au courant.
Non, je n'étais pas au courant.
C'est que Handel entendait ce hymne « Grand Dieu sauve le roi ». Il l'a réinterprété, emmené en Angleterre, et c'est devenu le « God save the king ».
Donc
tout part de la fistule anale.
De la fistule anale de Louis XIV, la plus grande danseuse de l'histoire, nous disait Stéphane. Pour continuer de parler de Louis XIV, nous sommes avec Arianna Fabricatore. Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé de philosophie, spécialiste de l'histoire de la danse. Vous êtes également chercheur à la Sorbonne, à l'université. Vous avez notamment publié La querelle des pantomimes, danse, culture et société dans l'Europe des Lumières. C'est vous dire que vous êtes rudement calé.
Vraiment pointu. Parce que là, par rapport à nous, Stéphane, c'est la honte.
Nous, on est vraiment. Nous, on est encore dans la branle. Et
moi, j'ai dit le branle que j'ai appelé la branle tout à l'heure, effectivement. Branle, oui.
Vous expliquez notamment la rivalité culturelle entre la France et l'Italie. Vous dites que Louis XIV crée l'Académie royale de musique juste pour dépasser les Italiens. Vous qui êtes d'origine italienne, je sais, ça ne vous fait pas très plaisir. Mais c'est vrai que Mazarin avait essayé déjà un peu avant. Et ça n'avait pas marché.
Oui, ça n'avait pas marché, oui. C'était une tentative de Mazarin de faire entrer la culture italienne dans la France. Alors, je voudrais juste dire 2 mots sur la querelle des pantomimes, parce que c'est une querelle sur la danse en France, qui se passe entre 2 querelles de la musique très importantes. Et en fait, elle interroge des questions qui sont très actuelles aujourd'hui. L'identité nationale. Existe-t-il une danse italienne, une danse française ? C'est ce que Louis XIV essaie de faire, une danse française. Le corps peut-il être porteur d'une identité collective, c'est-à-dire la question de la politisation des arts. Alors, pour revenir à Mazarin. Donc Mazarin, le but, c'est de réussir à faire entrer en France les Italiens. Ça fait des emplois, hein. Excusez-moi, hein. Ça fait des emplois.
Résultat, vous êtes arrivé.
Je suis arrivé, voilà. Moi aussi. Donc lui, la Finta Pazza, ce qui est intéressant, c'est que cette Finta Pazza, 1645, c'est un opéra italien et il la porte en France et il en sert des ballets parce que là, l'opéra tout court ne marche pas. Alors on dit que c'est le goût des Français qui l'aiment, la danse. Mais c'est pas que ça. Il y a aussi une façon de refuser la culture italienne, refuser Mazarin avec tous ces manigances qu'il faisait à l'italienne. Et donc, c'était l'idée de créer une frontière. Qu'est-ce qu'une frontière ? C'est une limite, créer un territoire. Moi, toi, les Italiens, les Français. C'est comme ça qu'on crée l'identité française en refusant certaines choses. Ouais.
Quelle était déjà la danse préférée de Louis XIV ? Moi, j'ai pas, je m'y perds dans toutes ces danses. Est-ce qu'on peut dire que lui-même était un bon danseur ?
Ah oui, oui, absolument. C'était un excellent danseur. Oui, oui.
Danseuse
aussi, évidemment. Non, c'était un excellent danseur. Alors, la danse préférée, on dit évidemment le menuet, parce que c'était à la mode. C'était vraiment la mode. Au début, c'était plutôt la courante. Hein, faites pas de blagues.
La courante ? Excusez-moi, mais c'est difficile de ne pas faire de blagues. C'était le nom de cette danse.
La courante, oui. Alors, la courante, c'est quoi ? C'est une danse binaire. Ça fait.
On imagine bien l'époque. Oui.
Voilà. Et avant, c'était le branle, bien sûr. C'est une question de mode. Et
c'est quoi le branle
très... C'est le début de la danse. Au bal, on danse d'abord le branle, c'est-à-dire on est tous en cercle et on danse tous ensemble. Et ensuite, il y a la danse qui suit, c'est-à-dire la courante, l'allemande. Voilà, il y a des suites qui se font de danse. Et puis, il y a le couple qui danse. Tout seul, désigné par le roi. Voilà, et c'était là, comme vous disiez très bien, si on fait le faux pas, et ça,
c'est préparé à l'avance. Le roi prévient ceux qu'il va appeler. Ah oui, quand
tout
même,
est préparé
on attend de se préparer
à l'avance.
Quand même.
C'est
ah,
le
et lui-même, il répétait, il dansait des heures avant de se donner en spectacle. Donc ça devient un spectacle. Il met en scène la monarchie française, il se met en scène lui-même.
Absolument.
C'était un acte politique, donc, pour Louis XIV.
C'était totalement un acte politique. Et d'ailleurs, ces ballets sont absolument un but politique. Il fait une esthétisation de l'art. Mais ça, c'est dans son projet politique, dans global. Et c'est pour ça que, comme vous disiez, dans le ballet de Dès la nuit, il se présente en Apollon, c'est-à-dire le maître des arts, le dieu. Le soleil, celui qui gagne sous le bien, sous le mal. Voilà.
Sauf qu'il a fait venir un autre Italien. Lili, là.
Oui, il a fait venir un Italien, effectivement.
Bah oui, non, mais vous avez vraiment envahi.
C'est paradoxal. La question de l'étranger, hein, c'est grâce aux étrangers qu'on peut dire qu'est-ce qu'on est. C'est dans le dialogue avec les autres qu'on peut être soi-même. Et c'est pour ça que Louis XIV utilisait les étrangers pour agrandir son royaume. Il savait choisir. Et Lili, c'était un bon choix.
Ah oui, c'est un très bon choix, Lili.
En tout cas,
vous en parlez merveilleusement bien. Vous m'avez même donné envie de lire votre livre, La querelle des pantomimes.
Parce que souvent, il n'a pas envie de lire les livres des invités, mais là, il a envie.
Moi, les vôtres, je les colorie. Danse, culture et société dans l'Europe des Lumières. Et c'est paru aux presses universitaires de Rennes.
Oui, et c'est très drôle. C'est une querelle,
vraiment. On imagine que c'est comme vous. On n'imagine pas que c'est chiant. Hein. Ouais. C'était merveilleux.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
La tête et les jambes, disait le titre d'une émission célèbre. C'est peu ou prou ce que nous faisons ici, mon cher Mathieu, cet après-midi. Vous cultivez tout en vous donnant envie de danser avec notre spécial Danse avec l'Histoire.
Oui, Stéphane, la tête et les jambes, et parfois même un peu plus quand arrive la plus sulfureuse des historiennes, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oui, Clémentine, aujourd'hui, elle nous parle du baiser.
Bah oui, mais clair, sulfureux, quand j'entends que vous arrivez à vous luxer le testicule en dansant, ça me laisse songeuse, je dois dire.
Ah ben, on tente des
Alors, le baiser. Vous savez que le baiser sur la bouche existe depuis la nuit des temps. On a trouvé des bas-reliefs égyptiens sur lesquels on voit des personnages s'embrassant sur la bouche, des bas-reliefs qui ont plus de 3800 ans. Et c'est devenu une pratique commune à 90% de l'humanité. Il y a simplement quelques peuplades dans lesquelles on ne s'embrasse pas sur la bouche.
Les Maoris, c'est le bout du nez.
Exactement. Ah bon, les Maoris, les Aborigènes, les Papous, les Esquimaux, les Lapons, les Pygmées. Il y a certaines peuplades dans lesquelles on a peur de se faire aspirer l'âme par le baiser. Sachez qu'il existe évidemment de nombreux types de baisers, mais celui qui nous intéresse, c'est-à-dire le French kiss, le baiser fougueux avec la langue. Alors là, celui-là, il a été nommé, baptisé par les Anglo-Saxons, mais effectivement, il aurait été inventé par les Celtes, donc par les Gaulois. Donc le French kiss, c'est vraiment une invention française. Je suis fière de pouvoir le dire ici de façon très péremptoire. Alors pourquoi aimons-nous cela? Il y a une explication psychanalytique. C'est qu'en nous embrassant sur la bouche, nous chercherions tous à prolonger le réflexe de succion acquis nouveau-né. Ça paraît quand même assez limpide. Hein,
ah bon?
Oui, quand vous avez tété votre mère, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez jubilé de la succion.
Ceux qui n'ont pas tété, par exemple.
Ben alors là, ils ont tété une tétine à biberon. Qu'est-ce que vous voulez?
C'est la nostalgie de votre tétine.
Il a bien fallu qu'on vous nourrisse, Stéphane, pour que vous soyez des nôtres aujourd'hui.
Et si vigoureux.
Alors, il y a une explication évidemment plus sensuelle. Hein, c'est que la salive contiendrait, entre autres, beaucoup de testostérone. Oui. Alors, selon la formule de Mark Twain, le premier baiser qu'on obtient d'une femme est comme le premier cornichon qu'on parvient à extraire du bocal. Le reste vient tout seul. Hein. Ce processus du cornichon dans son bocal a été théorisé très scientifiquement dans une chanson que nous connaissons tous. Je restais grisé sans volonté sous ses baisers. Et ça a été repris de façon tout aussi explicite par Alphonse Karr. Oui. Le baiser est une demande adressée au second étage pour savoir si le premier est libre. Alors, sachez que sous la Renaissance, ce baiser fougueux avec la langue, on l'appelait baiser à l'italienne. Parce qu'on pensait que c'était Henri III qui l'avait rapporté en France, comme avec la fourchette, en gros, si vous voulez. Mais son existence, ou plutôt sa pratique, est attestée avant Henri III, puisque ce type de baiser, alors qualifié de cataglottisme, est mentionné dans un conte français publié sous Henri II. Elle n'avait jamais cataglottisé et jouait si bien des dents que l'homme ne retira pas sa langue aussi longue qu'il l'avait donnée. Vous connaissez que cataglottiser, c'est quand même plus joli que rouler une pelle, hein, si vous arrivez à vous en souvenir.
Cataglottiser, je vais essayer de sortir.
Ça French veut dire kiss... aller jusqu'au fond de la glotte.
Oui, c'est ça. Caresser
ils
la glotte avec la langue.
Ils avaient des langues plus pendues que les nôtres. À
ils avaient peut-être plus de volonté aussi. Hein. Bon alors, outre-Atlantique, le French kiss n'a pas toujours eu la cote. Les Américains ont toujours trouvé ça dégoûtant. Mm-hmm. En 1890, le premier baiser sur la bouche dans un film a fait scandale. Il a été éreinté par la critique et le jugeait absolument répugnant. Et il y a même une très grande campagne en 1900 aux États-Unis, où une ligue de tempérance luttait contre la pratique du French kiss et disait, mais écoutez, si vous ne pouvez pas l'éviter, il faut procéder après chaque baiser à un lavage de bouche avec un produit antiseptique. Et cette campagne, vous riez, mais elle a été très soutenue par des grands trusts américains de produits pharmaceutiques. C'était justement l'occasion de vendre toutes sortes de bains de bouche. Dans son encyclopédie des incongruités de l'espèce humaine, Martin Monessier établit une nomenclature détaillée du baiser et évoque des baisers historiques. Alors, on apprend par exemple que dans la mafia, vous savez qu'on embrasse sur la bouche celui que la famille vient de condamner à mort.
Ah
mais
bon
oui. Puis il y a aussi, c'est ce que vous pratiquez tous les deux. J'ai remarqué, bon, vous êtes discret, c'est vrai.
Surtout
mais le fameux baiser à la russe, hein, pratiqué depuis toujours en Russie, signe de fraternité et d'amitié, c'est un triple baiser. Alors, ce qui est paradoxal avec la Russie, c'est que depuis 2013, le baiser sur la bouche entre deux personnes du même sexe est interdit en Russie et passible d'une peine d'emprisonnement. Mais ça, c'est l'homophobie russe du moment. Et c'est quand même extraordinaire quand on sait que la tradition du baiser sur la bouche est une tradition russe extrêmement ancienne. Enfin, je pense que vous brûlez de savoir quel a été le baiser le plus long au monde. Il a été réalisé en 1999 en Israël. Il a duré 30 heures et 40 minutes, mais les deux embrasseurs exténués ont dû être hospitalisés pendant 2 jours. Et enfin, j'ai retenu pour vous en particulier 2 baisers historiques que je trouve magnifiques. Le premier concerne Danton, le grand tribun révolutionnaire sur le point d'être guillotiné. Il veut embrasser son ami héros de Seychelles. Mais le bourreau s'interpose et l'en empêche. Alors Danton l'apostrophe, imbécile, tu n'empêcheras pas nos deux têtes de se baiser dans le panier. Jacques Aubert ou Jacquette Aubert, et là on n'est pas sûr parce qu'on pense que Héros de Seychelles avait des goûts sexuels très, très ouverts, aux hommes autant qu'aux femmes. Jacques Aubert ou Jacquette Aubert, amant ou maîtresse de Héros de Seychelles, désespéré par la mort de ce dernier, ne veut pas lui survivre. Il va se débrouiller pour récupérer sa tête, s'empoisonne dans son lit et meurt les mains jointes à celles de son amant. C'est ainsi en l'embrassant qu'il lui exprima son amour une ultime fois, tant il est vrai, selon la phrase d'Alfred de Musset, que le seul vrai langage du monde est un baiser.
Alors, magnifique. Là, il y a quand même un problème. Il lui avait pris dans le panier la tête ou les mains?
La tête.
Mais alors, donc, comment les mains se jointes?
Non, les lèvres jointes. J'ai dit les mains jointes. Oui, oh, mon jour d'erreur. Autant pour moi, excusez-moi, les lèvres jointes, bien sûr. Alors...
C'est beau et glauque à la fois, quand même.
Ah oui, tout à fait.
La tête ensanglantée.
Oh, deux têtes ensanglantées l'une contre l'autre.
C'est vraiment merveilleux comme fin, Stéphane.
Ça, c'est de l'amour.
Merci, Clémentine.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, spécial danse avec l'histoire, bat son plein 2 heures à la rencontre de ces figures de l'histoire, fans de danse, de Louis XIV à John Travolta. Eux, c'est tous les jours qu'ils s'affrontent dans un tango mortifère. On l'appelle El Quiz. Des quiz qui ont beau se succéder, leur degré de difficulté ne convient jamais à Son Altesse Berne Ier, qui leur reproche d'être comme ses amis qui les ramènent parfois à la maison.
Où ils sont trop mous, où ils sont trop durs, où ils sont...
Il n'est jamais content. Tant pis, jouons quand même à Born to be Alive. Évidemment, priorité à vous Stéphane, on vous donne comme toujours la première question. Winston Churchill, vous connaissez bien Winston Churchill.
Oui.
Il avait peur des oiseaux et particulièrement des pigeons. Vrai
oui,
ou faux?
C'est vrai.
Vous répondez de plus en plus vite.
Oui.
Vous êtes sûr?
Oui.
C'est faux. Par contre, il était misophone. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, il ne supportait pas les petits bruits.
Les petits bruits, par exemple, les bruits de
les oiseaux, Stéphane.
C'est pareil. Les oiseaux faisaient du bruit. Et il détestait ça.
Oui, c'est secrétaire qui avait des machines à écrire spécialement importées des États-Unis car elles faisaient moins de bruit.
Oui, exactement.
Là, une belle plantade de Stéphane d'entrée de jeu. C'est-à-dire, j'aime bien quand vous
jouez.
Je ne
savais même pas qu'il était Churchill avant d'entrer dans le studio.
Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Sur le Titanic, décidément, ils aiment bien le Titanic.
Je suis abonné au Titanic.
Sur le Titanic, 30% des hublots étaient des hublots factices. Oui, vrai ou faux?
Stéphane vient de me souffler la réponse.
Non, mais peut-être je me trompe.
Pour des raisons esthétiques, les hublots auraient été des hublots factices. Oui, ça me paraît possible, oui.
Vous avez perdu.
Bien aiguillé par Stéphane Merle.
Ma femme.
Vous avez perdu, c'est faux.
Chien galeux.
Non, en revanche, la quatrième cheminée était complètement bidon.
Ah, mais oui.
Elle servait juste à donner une impression de puissance et ne rejetait que les vapeurs des cuisines.
C'est pour ça que j'ai été induite en erreur. Je savais qu'il y avait quelque chose de factice.
Mais bien sûr, bien sûr. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. On se souvient de Berthe au Grand-Pied, l'épouse de Pépin le Bref et la mère de Charlemagne. Aujourd'hui, Berthe au Grand-Pied, c'est une marque de chaussettes et de collants fabriqués en France. Vrai ou faux? Vous ne mettez que du fil d'Écosse, mais...
C'est une question d'histoire?
C'est une question éminemment historique, Stéphane.
Non, écoutez...
Une marque de chaussettes et de collants fabriqués en sorte de Made in France,
ça serait très drôle. Ça serait très, très drôle, vraiment. Si ce n'est pas vrai, ça mériterait de l'être.
Votre réponse?
Et écoutez, pourtant, je fais beaucoup d'achats de collants, mais je n'ai pas encore vu cette marque.
De collants de danse, naturellement.
Pas trop de révélations de nature intime. C'est donc, la réponse est vrai ou faux?
C'est faux.
C'est faux, écoutons.
Vous avez perdu.
Et c'est une marque qui existe, une finition fait main, dessinée, fabriquée, conçue en France. La chaussette est à 23 euros, Stéphane. Prévoyez de casser votre PEL si vous en voulez deux. La chaussette, 23 euros.
C'est pas la paire.
Mais non, mais il faut savoir ce que vous voulez, Stéphane. Il faut savoir.
Qu'est-ce qu'elle a de spécial pour
parce
ce prix-là?
Parce que de toute façon, d'abord, vous en perdez une sur deux très facilement dans la machine. Je sais pas pourquoi elle les rend pas. Et deux,
les aspirer.
Avec les chaussures qu'on porte aujourd'hui, elles se trouent très facilement ou derrière ou devant.
Oui, écoutez Stéphane, encourageons le Made in France, même à 46 euros la paire. Question numéro 4 pour vous Clémentine, tâchons un peu de relever le niveau. Bon. Plusieurs conquêtes de Casanova l'ont écrit dans leurs journaux intimes, il l'embrassait à la Florentine. Alors là, si vous ne répondez pas à cette question, cela voulait dire qu'il ne demandait jamais l'autorisation, vrai ou faux? Embrasser à la Florentine.
Non, mais peut-être là, dans le prolongement de ma chronique du jour, peut-être que le baiser à la Florentine est un baiser à l'italienne, c'est-à-dire un baiser dans lequel on cataglottise.
Donc, je dirais... mais donc la réponse à la question, est-ce que c'est vrai ou faux ce que je dis?
C'est faux.
C'est faux. C'est une bonne réponse de Clémentine Portier-Kaltenbach. C'est Clémentine qui l'emporte. C'est une nouvelle victoire. Stéphane, un mot sur la défaite. Peut-être comment vous apprendrez la prochaine, le prochain quiz.
Écoutez,
plus de travail,
je l'attends avec beaucoup. Oui, bien sûr. Je vous rappelle que vos questions n'ont rien d'historique. Il s'agit de nous demander les marques de chaussettes qui existent aujourd'hui. Voilà. Donc, restons calmes.
J'entends cette mise au point.
Oui, oui.
J'entends.
(rire) 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi dépoussière l'histoire à grands coups de balai, en vous révélant les points communs de personnages illustres dont vous n'aviez peut-être pas entendu parler sous cet angle-là.
Oui, par exemple, saviez-vous que Stéphane Bern, illustre présentateur de Secrets d'Histoire, pratiquait dans son temps libre, outre la collection de timbres, le pole dance? Car je cite, il adore cette barre
qui est longue et chaude.
Au pied qui tombe à pic, Stéphane, car vous nous rappelez notre thème du jour.
Oui, danse avec les stars, danse avec l'histoire. Deux heures pour évoquer la passion commune de Louis XIV, Auguste Renoir et
John Travolta. Stéphane, même si c'est vrai, vu le nombre de ses hobbies, on aurait pu se garder John Travolta pour une spéciale. Ils pilotent eux-mêmes et très mal leur avion. Ils ont donné tout leur blé à une secte ou encore ces has-been qui sont redevenus un jour tendance.
Demandez un peu à Alain Chamfort.
Non, mais ne mélangeons pas les émissions, Stéphane. Aujourd'hui, c'est la danse qui est à l'honneur dans Historiquement Vôtre.
Oui, de la danse, mais pas uniquement. Au sommaire de cette deuxième heure également, Olivier Pouls, notre spécialiste culinaire, nous raconte l'histoire d'un plat qu'il est conseillé de ne pas manger avant d'aller danser, le hachis parmentier. Et comme tous les jours, j'aurai le mot de la fin. Et cet après-midi, je serai au bout du rouleau.
Oh Stéphane, vous n'êtes pas vraiment au bout du rouleau, rassurez-moi.
Non, non, c'est l'expression du
jour.
Ah, c'est
juste ça, d'accord.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
On se souvient tous de la scène dite du pétrissage érotique dans Ghost. Quand Patrick Swayze pétrit la glaise en guidant les mains de Demi Moore bien calées entre ses cuisses. Lui aussi, il aimait pétrir la glaise et comme Patrick Swayze, il aimait beaucoup la danse et surtout les danseuses. Stéphane Bern nous raconte à présent Auguste Rodin.
Historiquement vôtre. Le récit.
Avec Rodin, on parle du corps humain. Rodin est considéré comme le père de la sculpture moderne et le corps est au cœur de sa création artistique. Alors forcément, la danse, ça lui parle. Cet art qui éprouve le corps et lui offre le meilleur moyen de s'exprimer passionne l'artiste. S'il ne le pratique pas lui-même, il s'en inspire largement dans les 20 dernières années de sa vie. Grand écart, acrobatie en tout genre, jambes derrière la tête.
Mais c'est marrant parce qu'on n'imagine pas Rodin comme ça quand on le connaît peu. Moi, je pense au penseur, par exemple, il est plutôt assis, il regarde ses pieds, il est statique, quoi.
Certes, mais il n'est pas dans l'absence de mouvement pour autant, il pense. Ah. Essayez de le faire aussi de temps en temps, Mathieu, vous verrez, c'est passionnant. Et puis, essayez surtout de vous mettre dans la même position que lui, c'est très difficile. On croit qu'il est assis alors que tous ses muscles sont contractés. Si le penseur en bronze de Rodin reste effectivement son œuvre la plus connue, modelée au début des années 1880, on doit à Rodin des milliers de sculptures, mais aussi de dessins. S'il n'a jamais réussi le concours de l'École des Beaux-Arts de Paris, il s'est formé à la petite école de dessin qui prépare l'entrée au concours de l'École des Arts Décoratifs. Et c'est notamment avec son crayon qu'il va transposer la danse. Toutes les danses l'intéressent. Danse folklorique, régionale ou orientale, danse moderne, danse de cabaret. En témoignent ses revues de French Cancan et sa présence assidue dans les salles de spectacle parisiennes. Toutes les danses, sauf une.
Le hip-hop.
Non, un peu avant, voyez-vous, Mathieu, la danse classique. Celle codifiée par un certain Pierre Beauchamp à l'époque de Louis XIV, comme nous l'évoquions tout à l'heure. Et justement, ce qui est codifié n'intéresse pas Rodin. Il ne va jamais à l'opéra. Ce qui l'intéresse, c'est la liberté de mouvement des corps. Et à la toute fin du XIXe siècle, ça tombe bien. Un courant novateur venu d'Amérique libère les corps du carcan académique. On quitte les corsets, les tutus et les chaussons. C'est la danse moderne, ancêtre de la danse contemporaine, qu'Isadora Duncan et Loïc Fuller sont les premières à importer en France. Quand les deux pionnières débarquent dans l'Hexagone dans les années 1890, elles savent très bien qui est Rodin. Le sculpteur qui a déjà la cinquantaine vient de se séparer de Camille Claudel, qui fut successivement son élève, son amie et son amante, et partage toujours sa vie avec sa compagne, Rose Beuret. Rodin a 3 ateliers. Il est au sommet de sa gloire. Tous ceux qui viennent à Paris veulent le rencontrer. Imaginez la pile d'invitations sur le bureau de l'artiste. Il faut savoir faire un choix. Et Rodin se rend avec plaisir à leurs spectacles. Des spectacles de danse inspirés par l'antiquité grecque. Isadora Duncan danse pieds nus, drapée dans des tuniques fluides. Elle revient à l'essence même de la danse avec son élan primitif. Collectionneur d'art grec, Rodin partage avec elle cette inspiration. En 1903, Isadora Duncan se produit lors du banquet organisé en l'honneur de sa nomination au grade de commandeur de la Légion d'honneur. De la rencontre entre les deux artistes naissent quelques dessins. Au même moment, Rodin rencontre Loïc Feller. Ses danses sont hypnotiques, mélange de voiles et de lumière. Elle est l'égérie des symbolistes. Les deux deviennent amis. Dans ses mémoires, la danseuse écrit « En ce qui me regarde personnellement, je puis dire que Rodin est avec le maître Anatole France, l'un des hommes qui en France m'ont le plus impressionné. »
Et j'imagine que Rodin la dessine aussi ?
Et non, Mathieu.
Ah non.
Parce que Rodin s'intéresse au corps. Si Isadora laisse entrevoir sa nudité, Loïc Feller, elle est dans la dissimulation. Elle disparaît sous d'immenses voiles. Si les deux pionnières de la danse moderne captivent l'artiste, un événement le bouleverse carrément. Rodin assiste en 1906 à un spectacle du Ballet Royal du Cambodge qui accompagne la venue du roi à Paris. Il adore les danses asiatiques. Il avait déjà tant aimé les danses des javanaises à l'exposition universelle de 1889. Mais là, il est chamboulé. Au point qu'il suit la troupe jusqu'à Marseille, où il passe, selon ses propres dires, les 4 plus beaux jours de sa vie. Il faut dire qu'il a vraiment le coup de foudre.
Je sens qu'il y a des baisers florentins dans cette histoire, Stéphane.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Vous pensiez connaître Rodin et son penseur. Vous découvrez aujourd'hui Rodin, le danseur, ou plutôt le passionné de danse ou de danseuse, comme nous le raconte Stéphane Bern.
À 66 ans, la passion du mouvement anime toujours autant le célèbre sculpteur Auguste Rodin. À Marseille, où il a suivi le Ballet Royal du Cambodge, Rodin cherche frénétiquement à capturer les acrobaties des danseuses. Elles m'ont appris des mouvements que je n'avais encore jamais rencontrés nulle part, ni dans le statuaire, ni dans la nature, explique-t-il. Comme pris d'une urgence, il esquisse des croquis sur tout ce qu'il trouve, jusqu'au papier en tête de son hôtel. Il réalise 150 dessins des Cambodgiennes. Je sens bien qu'à les regarder, ma vision s'est élargie. J'ai vu plus haut et plus loin. Enfin, j'ai appris, dira-t-il. Lorsqu'elles repartent au Cambodge, Rodin, toujours sous le charme, écrit qu'elles emportèrent la beauté du monde avec elles. Quelques années plus tard, en 1912, Rodin découvre les talents du chorégraphe et danseur russe Vaslav Nijinsky lors de la première de l'après-midi d'un faune au Théâtre du Châtelet à Paris. Il en fait une figurine en plâtre, prête à bondir. Rodin meurt en 1917, après avoir bouleversé ce monde très codifié de la sculpture, mais aussi avoir légué toute son œuvre à l'État et signé l'ouverture d'un musée à son nom à l'hôtel Biron, son lieu de résidence à Paris. Ce n'est donc qu'après sa mort qu'on découvre une série de figurines dans des positions que, vous et moi, Mathieu, nous ne pourrions même pas envisager de réaliser.
Que vous dites, Stéphane ?
Ces 13 figurines en terre cuite ont été réalisées d'après l'observation de la danseuse Alda Moreno, artiste d'origine espagnole qui se produit à l'Opéra Comique. En 1910, elle prend la pose devant Rodin qui, hypnotisé, la dessine sans la lâcher du regard. En témoignent les traits de crayon qui débordent de ses feuilles. Sa souplesse est inégalée, son corps se tord dans tous les sens. Elle réalise devant l'artiste la figure du pied derrière la tête. Que Rodin voulait-il faire de ses figurines ? Aucune idée. Il ne baptise même pas sa série. C'est bien plus tard qu'on appellera les mouvements de danse, tout simplement. S'il s'intéresse au corps en mouvement de manière presque mécanique, il n'en est pas moins un artiste inspiré par l'imaginaire et la poésie. En témoignent les titres de ses œuvres. Lever de soleil, coucher de soleil.
Et le roi soleil aussi, non ?
Non, non Mathieu, Mathieu, si vous avez bien suivi aujourd'hui, Rodin n'a pas eu l'occasion de le voir danser.
C'est pas faux.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Rodin et l'ordre dans la danse, notre invitée Christine Lancestremaire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur du patrimoine, chef du service de la conservation du musée Rodin à Paris. Vous avez notamment été commissaire de l'exposition Rodin et la danse qui s'est tenue au musée Rodin. D'où vient cette passion de Rodin pour la danse ? Est-ce que lui-même savait-il danser ou simplement, comme je l'ai rappelé, il s'intéressait au corps en mouvement?
Alors, je ne crois pas qu'il savait danser, enfin, pas plus que vous et moi, mais son intérêt pour le corps justifie pleinement le goût qu'il peut avoir à regarder danser des artistes multiples, des acrobates aussi, et effectivement, pas le ballet classique, comme vous l'avez dit, mais toutes les danses possibles, la bourrée, le French cancan, et jusqu'aux grandes rencontres qu'il va faire dans les années 1890.
C'est une passion plutôt tardive qu'il a, Rodin. C'est les 20 dernières années de sa vie qu'il consacre à la danse. Avant, il ne s'y intéressait pas forcément. C'est une question de mode à l'époque, quand il y a des nouvelles danses qui apparaissent ou qui sont plus médiatisées, entre guillemets.
Je ne crois pas que les danses soient plus médiatisées, mais je pense qu'il y a une conjonction très favorable, une espèce d'alignement des astres. Mmh. Rodin s'intéresse au corps et à toutes ses possibilités d'expression et d'énergie également. Et c'est dans les années 1890 qu'on voit apparaître des danses nouvelles qui vont permettre à des danseurs et à des danseuses d'exprimer, d'utiliser leur corps différemment. Et ils se servent de leur corps comme Rodin se sert de la terre, en fait.
Mmh. En même temps, il était passionné du corps des femmes.
Il était passionné du corps en général, il était passionné des femmes, il était passionné du corps humain, hommes et femmes. Il y a plus de femmes dans les œuvres de Rodin, mais il y a aussi pas mal d'hommes dans les dessins et dans les sculptures. Mm-hmm. Donc c'est un intérêt plus large pour le corps et toutes ses possibilités.
Et ses mouvements, ce qui est incroyable, c'est l'amour du mouvement chez Rodin. Les muscles bandés, si je puis dire.
Oui, c'est l'énergie.
Vous pouvez le dire, Stéphane, n'ayez pas peur.
Il peut y avoir des corps immobiles chez Rodin, il n'y a jamais de corps au repos.
Oui, y compris le penseur, ça vous m'avez appris tout à l'heure.
Sûr,
le penseur,
il avait les muscles. Quand vous regardez bien le penseur, il a les muscles bandés.
Oui, c'est vrai qu'il est assez musclé quand même pour un penseur. Oui, effectivement.
Alors que nous pensons sans muscles.
Oui, et bien, encore.
Comment on peut définir le style de Rodin? C'est par l'expressivité des formes et des sentiments, par sa capacité de rendre ce qui est statique, de le rendre vivant, de le rendre mouvant finalement.
Je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire que le premier intérêt de Rodin, c'est effectivement de montrer la vie même, de sculpter ou de dessiner la vie même et de rendre cette impression de vie à travers le travail des muscles, du rendu des muscles et aussi de la tension des corps. Avec les danseurs plus particulièrement, je pense qu'il y a aussi toute la capacité d'expressivité. Il dit lui-même que le corps parle beaucoup plus loin que l'âme. Et c'est une façon d'utiliser le corps comme le miroir des sentiments, des sensations également. Et c'est aussi quelque chose qui l'intéresse, comme vous l'avez dit, pour les titres de ses dessins et le titre de certaines de ses sculptures.
C'est un reproche qu'on a souvent fait à Stéphane Bern. On reproche à Rodin d'être trop parfait.
Arrêtez.
Là, c'est vrai, ce qui sculpte, on dit que c'est trop parfait. Ça fait partie des reproches qu'on peut lui faire ou est-ce que c'est un faux reproche finalement d'être trop parfait dans son...
Ça n'est pas un reproche qu'on lui a fait. On l'a accusé en 1877 d'avoir moulé sur nature un corps masculin. D'ailleurs, c'était pas un corps
interdit,
masculin.
Oui.
Ce qui était infamant.
C'était
possible, c'était pas interdit, oui, mais on pouvait pas se proclamer sculpteur. Et donc il s'est défendu pendant 3 ans et ça a été un véritable traumatisme. C'est ce qui explique que par la suite, il n'a plus jamais sculpté à l'échelle humaine. Soit plus grand, soit plus petit. Et donc c'était un moyen de se défendre. Et Rodin est un extraordinaire sculpteur. Il est parfaitement capable de rendre au plus près la justesse des corps ou des visages. C'est un grand portraitiste également. Pour autant, ce qui l'intéresse, lui, ça n'est pas tant de représenter précisément le corps, mais de montrer plutôt le sens, l'intérieur. C'est ce qui se passe dans certains portraits ou dans certaines sculptures.
Je parlais il y a un instant, évidemment, des fameux mouvements de la danse. On dit souvent qu'il avait modelé directement sur le vif la danseuse Alda Moreno en train de danser. Mais en fait, il a procédé comment?
Alors, il l'a modelé une fois, sans doute sur le vif. Il a fait une statuette qui fait à peu près 30 cm de haut.
Oui. Pendant qu'elle danse?
Pendant qu'elle évolue.
Il la modèle.
C'est très rapide, enfin, il modèle très très vite. Ouais. C'est un peu le génie du sculpteur. Et il l'a dessiné aussi. Et ensuite, quand il a trouvé la posture, la bonne posture, il fait découper sa petite statuette en terre, il fait faire des moules de chacun des abatis, les jambes, les bras, le torse, et il fait reproduire chacun de ces abatis. Et il va les réassembler.
Incroyable.
Pour produire des mouvements différents. Exactement comme la danseuse elle-même peut décider de plier son bras, sa jambe, de pencher la tête ou de courber son torse. L'assemblage, c'est quelque chose que Rodin pratique depuis toujours, mais dans cette capacité d'analogie entre la sculpture et la danseuse, c'est très, très, très abouti.
En tout cas, il faut absolument vous.
Il faut aller déjà au musée Rodin.
Il faut aller au musée Rodin. En tout cas, merci Christine, l'ancêtre mère. Après la danse, c'est Rodin en son jardin que l'on peut découvrir dans un sublime parcours photo musée Rodin. C'est jusqu'au 29 novembre prochain. Et vous êtes actuellement en train de préparer la grande exposition de l'année prochaine, Picasso Rodin. Une exposition de lieu à partir du 9 février 2021 au musée Rodin et au musée Picasso à Paris. Deux artistes aux proximités inattendues.
Mais oui.
Inattendues, mais réelles.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Mathieu, pour notre spécial Danse avec les stars, Danse avec l'histoire, thème très gai aujourd'hui, votre rubrique 99% vrai, portrait toujours cocasse d'un personnage plus récent de l'histoire, aurait dû être l'apogée comique de notre émission. Hélas, il semblerait que l'actualité des derniers posts Instagram de votre personnage, John Travolta, ait quelque peu refroidi vos ardeurs humoristiques.
Oui Stéphane, j'étais pourtant chaud patate, pensez donc. Un scientologue qui a connu la célébrité en se dandinant en pâte d'eff avec un col pelle à tarte, puis en jean poutre apparente et banane à la Dick Rivers, pilotant son propre Boeing 707 et mangeant le placenta de sa propre femme pour purifier son corps des âmes extraterrestres qui tentent de s'y accrocher. Sur le papier, question humour, la vie de John Travolta, c'était du clé en main. J'aurais raconté l'origine de la passion du petit John pour la danse, sa théorie selon laquelle bien danser est juste une question de confiance en soi. Pour illustrer la chose, j'aurais demandé à Stéphane de danser un Madison avec Olivier Pouls. Leur maladresse aidant, il se serait rapidement retrouvé au sol, enchevêté dans une position équivoque. J'aurais mis un son du style
« Non, il n'y a pas besoin de soulever le croupion, ça, c'est, il le saura lui-même. »
Et j'aurais conclu cette chronique potage par une archive de l'émission 7 à 8 où John Travolta se raconte sans tabou.
Comment fête-t-on la nouvelle année quand on est scientologue ?
Chaque année, on se retrouve dans ma villa de Los Angeles avec tous mes amis scientologues. On fait le compte de l'argent qu'on a pris à nos nouveaux adeptes, des gens un peu simples comme toi, comme vous. On pose l'argent sur la table, on se tape dans les mains parce qu'on est content et on claque tout dans les putes et les fraises Tagada.
Hélas Stéphane, point de pute ni de fraises Tagada dans mon portrait cet après-midi car John a décidé de jouer un bien sale tour aux chroniqueurs humoristiques dans mon genre. Le 12 juillet dernier, il a perdu sa femme Kelly Preston, décédée d'un cancer du sein après un combat de 2 ans. Drame qui, je ne vous le cache pas, vient un peu perturber, pour ne pas dire saloper, la tonalité enjouée de mon papier. Mais ça n'a rien d'étonnant Stéphane, ça c'est l'égoïsme classique des stars. Elles se foutent complètement des gens dont le métier est de se moquer d'elles. Elles se permettent de mourir n'importe quand. Pour Bibi, c'est donc la tuile, surtout quand j'ai jeté un œil au fil Instagram de John Travolta, dont une des dernières vidéos le montre dansant avec sa fille Ella, pour, je cite, « honorer la mémoire de son épouse qui adorait danser avec lui ». On est loin, très loin des putes et des fraises Tagada, mais on revient à notre thème « Danse avec les stars », fil conducteur de notre émission du jour et fil conducteur de la vie de John Travolta. Si, comme disait Nourieff, la danse est l'art de se mettre à nu, alors John Travolta est le plus gros naturiste de l'histoire. Il a beau nous dire que tout est dans la tête, que danser est une question de confiance, c'est aussi une question de physiologie, tout le monde n'ayant pas comme lui une hanche déboîtable, indépendante de sa cuisse. John fait partie de ces gens qui semblent avoir été montés en kit.
Comme Franck Ribéry ?
Bien, danser, disais-je, est une seconde nature pour le jeune John. En même temps, quant à la poisse de dette dans New Jersey en 54, faut bien s'occuper. Je ne sais pas si vous connaissez New Jersey, Stéphane.
Non, pas spécialement.
Oui, bah vous ne ratez rien. Fils d'un footballeur semi-professionnel qui vend aussi des pneus et d'une maman actrice qui donne aussi des cours d'anglais, John hésite entre le foot et la danse. Rapidement, il tranche en faveur du musical. Il aura même pour prof Patsy, la mère de Patrick Swayze, Johnny, dans Dirty Dancing. Oui, le monde est petit. Après des débuts discrets à la télévision, il explose dans la fièvre du samedi soir en 77. Le film qui a permis à une génération d'hommes de comprendre que danser pouvait permettre de pécho. L'année suivante, rebelote avec Grease. Ah ça, on sent que ça vous parle, dans les années 50, période bénie où Bridgestone embauchait à tour de bras. Mais l'euphorie Travolta ne dure pas et John entame une longue traversée du désert sans pute ni fraise Tagada jusqu'à sa rencontre avec Quentin Tarantino pour Pulp Fiction en 94. L'idée géniale étant de faire du gentil Travolta tout maigre un méchant Travolta tout gros mais qui danse toujours, qui plus est en chaussettes et sous acide. Tarantino raconte, je cite, « Avant chaque scène de trip, Travolta buvait de la tequila et prenait un bain. Cette méthode de relaxation m'avait été conseillée par un ami qui avait un lourd passé d'héroïnomane. » Comme Michel Drucker, mais en plus riche, John Travolta est aussi un véritable passionné d'aviation. Il possède un Boeing 707, un jet privé et des pistes d'atterrissage dans son jardin. J'aime bien le pluriel, des pistes. C'est vrai qu'avoir une seule piste d'atterrissage dans son jardin, comme Stéphane Apparo, ça serait un peu cheap pour John qui a préféré voir grand. Même si visiblement, il ne voit pas si bien que ça. Selon l'IFW, l'International Flight Watch, qui recense les incidents aériens, un jour qu'il revenait de vacances, le Boeing de John Travolta a bien failli entrer dans le cul d'un avion de ligne. Il a dû atterrir d'urgence à Washington. John Travolta aurait donc pu avoir la mort de 300 personnes sur la conscience. Ce n'est heureusement pas le cas, même si les mauvaises langues diront que l'enquête sur le vol Rio-Paris n'est pas close et que ce jour-là, bizarrement, John revenait des Antilles bourré au punch. Enfin, il y a bien sûr le dossier Scientologie, dossier qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, qu'est-ce que l'église de la Scientologie ? Eh bien, c'est comme une soirée SM dans la crypte mérovingienne de l'abbaye de Stéphane Bern. On sait quand on y entre, on ne sait jamais quand on va en sortir, si on va en sortir et dans quel état. Ceux qui en sont sortis évoquent des rites initiatiques terrifiants et le rire du grand prêtre les hante à jamais. La Scientologie, c'est pareil, avec une théorie supplémentaire, celle que les tétans sont en possession de nos corps. Les tétans étant les âmes des extraterrestres exilés qui viennent s'accrocher à nous et nous renvoient des images de nos vies antérieures en tant qu'extraterrestres. Comme le dit Stéphane poliment quand un invité l'ennuie...
Bon, incroyable.
C'est dommage, Stéphane, ce mépris pour l'occulte, car si vous vous sentez ramollo l'hiver, ce n'est pas une carence en fer ou en potassium, c'est à cause des tétans qui vous sucent de l'intérieur, si j'ose dire. Heureusement, la Scientologie est là pour vous permettre de mesurer votre taux de tétans. C'est 3 800 euros, hein, pour vérifier votre taux de tétans. Et puis, si vous voulez qu'ils vous le débarrassent de ces vilaines bestioles une bonne fois pour toutes, c'est 400 000 euros. Voilà, donc c'est un club très fermé, la Scientologie, il faut quand même avoir un peu de blé. Au sujet de son adhésion à ces théories pourtant éminemment plausibles, Travolta déclare « Je suis aussi célèbre que Marilyn Monroe et Elvis, mais à cause de mes croyances personnelles, je n'ai pas évolué comme eux. Les gens se permettent de juger la Scientologie alors qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Moi, perso, Travolta, je préfère le danseur que le penseur. Je suis sûr que vous aussi, Stéphane, vous êtes un cartésien, pas du genre à croire que les extraterrestres vont venir nous sucer. »
J'adore.
Non, c'est une image, Stéphane, c'est une image.
Merci
Mathieu. Je sens que vous imaginez
de l'intérieur, on a dit.
De l'intérieur, en plus.
99% vrai, donc il y a 1% de faux. Si j'ai bien compté. Oui.
Ce qui est faux, c'est pas drôle du tout, mais c'est vrai. Suite au décès de sa femme, John Travolta serait en train apparemment de s'éloigner de l'église de la Scientologie. Il était temps, n'en déplaise aux tétans.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez toujours Historiquement vôtre et à ce stade de l'émission, comme Stéphane Bern, vous vous dites probablement « C'est bien joli l'histoire, mais qu'est-ce qu'on graille ce soir ?» Notre sauveur s'appelle Olivier Pouls.
Oui, Olivier, l'homme qui préfère clairement manger que danser, pour preuve, s'il en fallait une. Vous nous parlez cet après-midi de l'histoire du hachis parmentier.
C'est vraiment le plat anti-danse, par exemple. Tu peux y renoncer tout de suite.
Ouais, en rock, après, un bon hachis parmentier, ça peut réserver des surprises. Je vous déconseille. C'est plutôt surtout, l'inverse.
On est bien lourd, après.
Ouais. Mais c'est un plat délicieux. C'est un plat qu'on a
surtout
souvent
avec,
tendance
au
à
canard,
trouver.
Avec du canard.
Ah ben, vous pouvez nous donner la recette, d'ailleurs, si vous voulez. Mais on peut le faire à plein de choses. Mais d'où vient ce fameux hachis parmentier ? Ben, on le doit, évidemment, Antoine Parmentier, au XVIIIe siècle, apothicaire, agronome, nutritionniste. On a souvent raconté à tort que c'est lui qui avait introduit la pomme de terre en France. C'est pas vrai, il ne l'a pas du tout introduit, puisque la pomme de terre est arrivée pratiquement 2 siècles avant lui, d'Amérique du Sud. En fait, lui a beaucoup contribué à son développement. Et c'est parti, en fait, malheureusement, d'une triste histoire pour lui, parce qu'il était prisonnier lors de la guerre de 7 ans. Il était prisonnier des Prusses en 1757, et on lui donnait à manger ce qui, à l'époque, était la nourriture des cochons, des pommes de terre. Parce qu'on se méfiait, nous, en France, de la pomme de terre.
Oui.
On l'a
tout
donné aux cochons.
Qui est né
dans la terre,
l'église l'interdisait. Et il faut que ça sorte.
Voilà, elle était entre autres accusée de transmettre la lèpre, donc on ne la mangeait pas. Mais lui, il l'a mangée pendant plusieurs années, il était captif pendant 6 ou 7 ans. Et en revenant de cette captivité, il s'est dit qu'il y avait d'abord quelque chose d'intéressant à manger, que ses vertus nutritionnelles étaient très bonnes. À l'époque, c'était un peu la disette en France, et il a imaginé que ça pouvait être une très bonne réponse finalement à tous ces problèmes de famine. Il a réussi à convaincre le roi Louis XVI de lui octroyer un petit champ pour faire ses essais de culture de pommes de terre. Il a d'ailleurs offert au roi une fleur de pommes de terre
qu'il a portée,
que ce dernier portait à sa boutonnière et la reine dans sa chevelure.
Exactement.
Et puis il avait trouvé une petite astuce amusante pour intriguer les gens par rapport à la pomme de terre, c'est que ce fameux champ de pommes de terre, hein, qui était situé à Neuilly, il le faisait garder la journée par des gardes en armes. qui se retirait la nuit. Donc les gens se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc des gardes en armes? Ça doit vraiment être quelque chose d'extraordinaire. Et la nuit, ils allaient piquer les pommes de terre, ils les mangeaient.
Ah, c'est génial, comme ça, ils découvraient
le goût
ouais, de la pomme
de terre. Et ouais, ils découvraient la pomme de terre. Et puis, en 1785, il est invité par le roi pour lui faire goûter ces fameuses pommes de terre. Alors, le hachis tel qu'on le mange aujourd'hui, c'est pas vraiment la recette qui lui aura servi. À l'époque, on faisait une espèce de bouillie, on l'écrasait, on mélangeait un peu ce qu'on avait. Et le hachis tel qu'on le pratique, enfin, tel que les cuisiniers aujourd'hui l'élaborent, c'est plus un hommage finalement à Antoine Parmentier que la recette originale qu'il aurait inventée. C'est vraiment pour rendre hommage à celui grâce à qui on mange aujourd'hui de la pomme de terre un peu sous toutes ses formes.
Et alors comment on fait? Vous allez nous donner la recette du hachis parmentier ou on n'est pas
évidemment.
À la hauteur?
Évidemment. Non, alors vous savez, c'est un plat de reste. Hein, donc franchement, on peut le faire avec tout ce qu'on veut. Tous les restes de viande de base, donc de la volaille. Moi, j'aime beaucoup avec de la volaille, avec des restes de poulet, par exemple. Ça marche très bien. On peut même mélanger plusieurs viandes, du bœuf, du porc, du canard, par exemple, du confit de canard. Ça marche très bien.
Le confit de canard, oui.
Ce qui est important, c'est de garder aussi un peu de jus et de sauce de viande, parce qu'il faut que le hachis ne soit pas trop sec. Donc, si vous prenez, par exemple, des steaks hachés classiques, c'est un peu sec. Donc, si on peut rajouter un peu de jus de viande dans tout ça, ça donne un côté.
Alors, dans quelle ordre ça se fait? On a les ingrédients, mais.
Eh bien, on va tout d'abord faire suer une échalote. On va faire rissoler la viande si elle n'a pas encore été cuite, mais si c'est de la récupération, il n'y a même pas besoin. On va mouiller avec un peu de jus. On peut rajouter quelques épices ou quelques herbes, ça donne un peu de tonus. Et puis à côté, on élabore une vraie bonne purée de pommes de terre. Alors pour ça, règle de base numéro 1, les pommes de terre, on les cuit avant de les avoir épluchées, pour ne pas que l'eau de cuisson rentre dans la pomme de terre, donc on les épluche après. Ouais. On les passe évidemment au moulin à légumes. On rajoute une bonne quantité de beurre.
Mais qu'est-ce que vous dites, une bonne quantité de beurre? J'ai l'impression que plus la purée est bonne, plus il y a de beurre.
Bah oui, alors là, c'est un peu votre limite à vous, voyez-vous.
J'ai entendu parler de 50-50. Est-ce que c'est vrai?
C'est ce qu'on prétendait être Robuchon. La recette de Joël Robuchon.
Ah, mais c'est pas raisonnable.
Mais ça, c'est pas raisonnable.
Ah non, c'est pas
on est d'accord. Franchement, pour 500 grammes, oui, pour 500 grammes de pommes de terre, allez-y pour un petit 100 grammes de beurre, du lait évidemment, de la noix de muscade. Et puis, ben, vous montez ça dans un plat, la viande en dessous, la purée par-dessus. Moi, je rajoute toujours par-dessus un peu de chapelure, parce que ça donne de la texture. Mais c'est oui, sympathique.
On met ça
au four. Ça gratine, on met ça au four. Allez, 35-40 minutes. Et après, hop, un petit coup de grill pour faire gratiner le dessus et cette petite chapelure.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Louis XIV, Rodin, John Travolta étaient nos stars du jour. Ils aimaient danser avec leur corps. Lui, il préfère danser avec les mots, ce qui, vu son corps, est une sage décision. Mmh. Chaque jour, vers 6h-10, Stéphane Bern nous révèle l'origine souvent insolite de ces mille et une expressions françaises étranges, comme par exemple
« mords-moi le nœud ».
On ne se connaît pas encore suffisamment, Stéphane, ne brûlons pas les étapes. Parlez-nous plutôt d'une autre expression aujourd'hui, « être au bout du rouleau ».
Oui, vaut mieux, Mathieu. L'expression du jour est « au bout du rouleau », une expression que l'on utilise souvent le vendredi. Mais fort heureusement, le week-end est là pour nous faire repartir du bon pied. Pourquoi cette expression? Je parle de « au bout du rouleau », pas de repartir du bon
ça
pied.
Ça sera l'objet d'une autre chronique.
Eh bien, ça date du XIVe siècle. À l'époque, les livres ne ressemblent pas du tout à ceux d'aujourd'hui. Autour d'un bâton d'ivoire ou de buis, on y enroule des feuilles écrites sur un seul recto, collées et mises bout à bout. On appelle cela des rôles. Au théâtre, d'ailleurs, les dialogues sont écrits sur ces fameux rôles. On jouera donc un rôle. Et dans une pièce, quand un acteur a peu de choses à dire, on appelait ça un rôlet. Dans la vie courante, quand une personne ne savait pas quoi dire ni comment réagir, on disait qu'elle était au bout de son rôlet.
Et donc l'expression, rapidement, ne s'est plus cantonnée au théâtre.
Oui, très belle réplique, très beau rôlet. Oui, Mathieu. Au XIXe siècle, le rôlet se transforme définitivement en rouleau. Vous savez pourquoi? Parce que les banquiers, mettant des pièces dans des rouleaux de papier, les personnes qui n'avaient plus d'argent étaient au bout du rouleau de papier d'argent. Au bout du rouleau, cela exprime une extrême fatigue. En Tunisie, comme en France d'ailleurs, on dit être sur la jante. En Allemagne, on dit siffler au dernier trou. C'est bien mystérieux.
Oui.
Et enfin, nos ados, car après tout, sont eux qui aujourd'hui inventent les expressions de demain, disent être au bout de ma vie. Enfin, de la leur, pas de la mienne, rassurez-moi.
Nos auditeurs se rassurent. Au bout du rouleau, ils disent aussi. Moi, je pensais que c'était une histoire de papier toilette au bout du rouleau. Je découvre que non.
Ah non, pas du tout.
Et non. Historiquement vôtre touche à sa fin. C'était pas la fièvre du samedi soir, mais la fièvre du vendredi après-midi. C'est clair, ce soir, vous allez en boîte, Stéphane.
Vous êtes fou avec le Covid.
Ah non, c'est vrai, vous avez raison, c'est fermé. Danse avec les stars, danse avec l'histoire. On a parlé de ces illustres personnages qui étaient fans de danse. Alors, Louis XIV, Auguste Rodin ou John Travolta, qui vous a le plus étonné, Stéphane ?
Écoutez, honnêtement, Auguste Rodin.
Oui, parce que...
Parce que saisir sur le vif comme ça, et surtout l'histoire des mouvements de la danse, où il prend les abatis, les membres des... d'Alda Moreno et qu'il la reconstitue après.
Ces histoires de membres vous ont plu, c'est sûr. Oui.
16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, spécial danse avec l'histoire se termine.
Et oui, au grand dam de Stéphane qui voulait qu'on prolonge l'émission au VIP Room. J'ai dû lui expliquer que c'était fermé. Il est très déçu. Heureusement, on se retrouve demain, Stéphane.
Oui, pour un nouveau numéro de claquettes dont nous seuls, je crois, nous avons le secret.
Retrouvez Historiquement vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.